pierdere coronia partidei. Delgado acolo este
Lettre romande avec Julien Sansonnens.
Bienvenue dans Lettres romandes, le podcast consacré à la littérature sous toutes ses formes, en Suisse romande et ailleurs. Aujourd'hui, nous recevons Gilles de Montmollin. Gilles de Montmollin, bonjour, merci d'être parmi nous.
Bonjour Julien.
Vous êtes la troisième personne donc, qu'on interviewe pour cette série de podcasts consacrés à la littérature romande, aux auteurs, aux écrivains, aux éditeurs, à toutes les personnes qui font vivre la littérature en Suisse romande. Peut-être, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord ?
Oui, alors très volontiers. En quelques mots, bon, je suis né en 1954. J'ai grandi à Auvergne, près de Neuchâtel. Mmh. Puis j'ai vécu dans différents endroits de Suisse et un petit peu en France aussi. Et je me suis établi depuis bientôt 30 ans à Yverdon. J'ai étudié la géographie et l'urbanisme, j'ai exercé quelques années dans la planification autoroutière, puis j'ai viré dans le marketing, dans la gestion d'entreprise, dans le conseil, et finalement, je suis devenu secrétaire général adjoint à l'État de Vaud. Mmh. Je suis marié, j'ai deux enfants adultes, et je me suis lancé dans l'écriture vers 45 ans. Pour réaliser un rêve.
D'accord.
Début 2015, j'ai pris une retraite anticipée pour me consacrer, entre autres, davantage à l'écriture et au voyage.
D'accord, très bien. Et la géographie, c'est quelque chose qui s'est imposé, qui allait de soi quand vous étiez jeune?
Disons que c'était un de mes grands intérêts. Il y avait l'histoire et la géographie. C'était mes deux passions d'enfant et d'adolescent. Donc voilà, un atlas, ça m'a toujours fait rêver.
Mm-hmm. Et, il y avait déjà cette part de voyage.
Voilà, exactement. Oui, oui, oui. Et, d'ailleurs, écrire un roman, c'est aussi une manière de voyager.
Mmh, absolument. Alors, on va revenir après à la méthode, vos méthodes de travail, votre écriture, bien sûr. On va encore parler de vous avant cela. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre enfance?
Alors, bon, comme je l'ai dit, j'ai grandi à Auvergne, donc c'est le long d'un lac. J'ai fait pas mal de voiles, c'était la passion de mon père. Mmh. J'ai adoré rêver sur le lac. Voilà, me balader, observer le paysage, la nature, jouer avec les éléments, sentir voir le vent venir, anticiper les risées, ce genre de choses.
Ces premières sensations qui ensuite vont parcourir aussi votre écriture, hein, ce besoin de liberté, ce besoin de voyage qu'on sent très présent dans votre écriture, vous les rattachez à l'enfance déjà, ces sensations-là?
Alors, sans doute, effectivement, à l'enfance, mais maintenant aussi aux livres que j'ai lus. Hein. J'ai lu à peu près tout Jules Verne entre 9 et 16 ans. Donc, là aussi, j'ai beaucoup voyagé.
Ah, vous étiez à bonne école, oui, tout à fait. C'était une enfance heureuse?
Je sais pas. Disons, il y avait des aspects positifs et des aspects moins positifs. J'ai adoré effectivement la lecture, la nature. J'étais par contre assez timide et solitaire, donc je pense que je suis plus épanoui aujourd'hui que je l'étais comme enfant. C'est d'ailleurs le but.
D'accord. Oui, tout à fait. Heureusement. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier roman, La fille qui n'aimait pas la foule?
Alors. C'est un road trip. J'ai voulu faire un road trip, un voyage, la traversée d'un pays. Alors bien sûr, qui dit road trip dit États-Unis, dit grands espaces. Et puis pour écrire un voyage, il vaudrait mieux l'avoir fait avant. Et ça m'était un petit peu compliqué. d'aller passer le temps qu'il fallait, je sais pas, 15 jours, 3 semaines aux États-Unis. Alors, j'ai choisi la France, qui s'est révélée finalement bien assez vaste, bien assez grande pour le roman que je projetais. Mmh. Et l'avantage de la France, bon, ben d'abord, j'ai pu faire des voyages de repérage. Et puis, oui. L'autre avantage, c'est que j'ai vécu en France un tout petit peu plus tard que ce roman. Hein. Ce roman se passe en 1972. J'y ai pas mal voyagé entre 76 et 79. J'y ai vécu d'ailleurs une année. Mais enfin, disons que le feeling était, j'avais pas trop de problèmes à reconstituer l'époque.
D'accord. Est-ce qu'il y a une écriture un petit peu cinématographique dans le road trip? On imagine justement le voyage en voiture dans des étendues immenses. Est-ce que c'est une écriture très visuelle?
Oui. Alors maintenant, je ne crois pas que ce soit limité à ce roman-là qui est en road trip. Hein. Les autres, les quatre autres romans sont des romans... Il y en a deux qui sont historiques et deux qui sont plutôt des polars contemporains. Mais je crois avoir une écriture assez visuelle dans tous les cas. Alors cela pour deux raisons. La première, c'est que je divise toujours mes scénarios en scènes, un petit peu comme dans un scénario de film. J'ai une façon de travailler qui, me semble-t-il, s'apparente un peu à celle d'un scénariste. Et puis, l'autre raison, c'est que je ne sais pas comment fonctionne. J'ai pas vraiment discuté de ce point précis avec d'autres auteurs, mais personnellement, quand je décris une scène, je me la filme, je la visualise, et je me repasse le film autant de fois qu'il le faut pour le rendre de la façon la plus claire possible au lecteur.
Donc vous avez besoin de visualiser les espaces de manière tout à fait concrète, vous avez besoin de voir les lieux dont vous parlez.
Alors, malheureusement, je ne l'ai pas toujours fait. Hein. Clairement, j'ai pu le faire avec La fille qui n'aimait pas la poule. Ouais, par contre, le bateau qui naviguait tout seul, le tout premier, je l'avais aussi fait.
Oui.
Mais dans la...
Il faut avoir les moyens et le temps de le faire.
Par contre, j'ai toujours vu des lieux dont je pouvais m'inspirer. Par exemple, dans Latitude 58, qui se passe dans une île plus ou moins imaginaire, c'est selon, au sud de la Nouvelle-Zélande, je n'y suis pas allé. Par contre, j'ai pu m'inspirer des paysages d'Écosse ou de Terre de Feu dont je m'étais bien imprégné. Et puis bon, maintenant, évidemment, avec Google Earth, on a quand même, ou Google Maps, on a quand même la possibilité de pas mal voyager, même si ça remplace pas tout à fait la vision locale.
Ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez un souci d'authenticité quand vous restituez ces scènes? Est-ce que c'est important que ce soit exactement comme vous l'avez vu?
Alors, oui et non. Ce qui est très important, c'est que les détails soient vraisemblables, que les détails sonnent vrais. Maintenant, si je n'arrive pas à trouver le virage qu'il faut, par exemple, par rapport à mon road trip, ou je sais pas l'endroit de camping sauvage que je décris, bon. Mais je vais le prendre ailleurs et puis je vais le ramener à l'endroit qui me plaît. Je vais parfois un tout petit peu tricher avec la réalité. En revanche, j'accorde beaucoup d'importance aux détails techniques. Par exemple, je compte toujours vu qu'il s'agit généralement de thriller, de romans d'action, je compte toujours les balles qu'il y a dans un revolver.
Pour moi, tout à fait.
C'est pas il a déchargé son revolver. Il tire. Ouais. On voit les six coups. Enfin, j'essaye de rendre le départ des six coups, puis tout à coup, ben, il n'y en a plus. Comme ça, ça fait une impression d'authenticité. J'essaye de donner au maximum l'impression que c'est vrai.
Oui, et puis on sait que certains lecteurs prennent beaucoup de plaisir aussi à justement à repérer hein, toutes ces petites incohérences qui parsèment parfois les livres. Et j'ai eu l'expérience aussi de soit d'anachronismes ou de détails qui jouaient pas comme ça. Alors peut-être une de vos touches, hein, une de vos pattes, si on peut dire comme ça, c'est précisément la touche écologiste. La plupart de vos romans ont comme ça un fond. Oui, écologiste. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Est-ce que vous essayez de faire passer des idées finalement à travers vos romans, à travers la fiction?
Alors, le premier objectif d'un roman pour moi, c'est d'abord de donner du plaisir. C'est la première chose que je demande à un auteur, c'est qu'il me fasse passer un bon moment. Mmh. Parce que je crois que le grand bonheur éternel, le bonheur durable, disons, est très difficile à atteindre. Par contre, je crois beaucoup aux petits instants de bonheur, de détente, que peuvent, par exemple, nous procurer la lecture d'un livre.
D'accord.
Alors, ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, si le livre délivre un message, c'est un bonus, c'est mieux. Alors, effectivement, j'essaye toujours, à côté d'une histoire que j'espère passionnante, j'essaye de délivrer un message qui est effectivement dans deux de mes romans assez axé sur l'écologie, oui.
Mmh. Même la décroissance, hein, même.
Alors, effectivement, dans le La fille qui n'aimait pas la foule, c'est axé là-dessus. Disons, je dirais pas la décroissance. Je dirais plutôt l'arrêt ou le ralentissement de la croissance. Mm-hmm. Qu'on soit bien d'accord, la véritable décroissance, ça voudrait dire que qu'on soit chaque année moins nombreux ou que chaque année nous consommions un peu moins de ressources, chacun de nous. Je crois qu'il ne faut pas rêver. Hein. À moins d'une crise majeure, on ne l'aura pas. Hein. Ce qu'on pourrait peut-être essayer de faire, c'est de maîtriser un petit peu notre croissance. Lorsque je suis venu au monde, nous étions 3 fois moins nombreux sur cette Terre. Et actuellement, nous continuons à croître au rythme de 220 000 personnes, 220 000 habitants par jour. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si on crée la ville de Bâle, chaque jour une ville de Bâle sur cette planète. Mmh. Alors, je pose la question, jusqu'à quand? Alors qu'on sait qu'on est déjà depuis longtemps dans la zone rouge.
Mmh. Est-ce que vos lecteurs sont sensibles? Est-ce que ça entame un dialogue avec vos lecteurs, ces questions-là?
Alors, parfois, mais pas énormément, parce que, comme je vous l'ai dit, je crois que le premier objectif de mes livres, c'est d'abord le plaisir, et je crois que mes lecteurs y sont sensibles. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que la plupart des gens qui avaient lu, notamment la fille qui n'aimait pas la foule, l'ont pris comme un road trip, comme un polar, où la question de la croissance démographique n'est qu'un prétexte, donner une motivation à l'héroïne.
D'accord. Comment ça se fait qu'il y ait si peu de road trips qui sont publiés, notamment en Suisse romande? Je pense qu'il y a pourtant un décor qui permettrait vraiment. Moi, j'ai personnellement cherché des road trips à lire et le vôtre était un des rares qui a été publié ces temps. Est-ce que c'est passé de mode peut-être ou est-ce que pourquoi?
Alors là, je me suis pas posé cette question. Vous posez une bonne question. Je pense quand même que c'est lié, enfin, que les gens sont que les auteurs, disons, sont inspirés par la route dans des régions à grands espaces. Je pense quand même qu'il doit y avoir une plus grande proportion d'auteurs américains qui font des road trips qu'en Suisse romande, en tout cas, et même qu'en France.
Certainement, et peut-être que la route a perdu aussi un peu de sa magie et de son mythe. Hein. D'ailleurs, le fait que vous situez l'action dans les années 70, on sent très bien, et vous arrivez très bien à le faire sentir, que la liberté, les grands espaces, justement, la benzine qui coûtait très peu, les bagnoles qu'on pouvait encore bricoler, toutes ces choses-là qui participaient du plaisir, finalement, de la route, ont peut-être un petit peu disparu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors tout à fait. Effectivement, quand j'ai voulu faire un road trip, ben, d'abord, j'ai pensé à le faire en 2012 ou 2013, hein, si je prends... Et puis je me suis vite rendu compte que ça n'irait pas. Hein.
C'était plus le même état d'esprit. Ouais.
Plus du tout de la même façon, parce que quand on traverse un pays, ben, sauf si on est complètement fauché, on prend l'autoroute, hein, ce qui ôte évidemment toute possibilité de s'arrêter et de rencontre en dehors des aires d'arrêt d'autoroute qui ne sont pas vraiment excitantes.
Oh, il paraît qu'il y a des rencontres intéressantes qui se font sur les aires de repos, semble-t-il.
Non, on peut, mais enfin, disons que c'est moins varié quand même. On peut quand même encore faire la route par la route, bien entendu, mais c'est plus difficile à rendre crédible, évidemment. Et puis, effectivement, il y a les voitures qui sont moins intéressantes aujourd'hui. Il y a aussi l'urbanisation. Il y a 40 ans, les routes étaient nettement plus déjà désertes de voitures, mais aussi d'urbanisation. On était dans un décor quand même plus sauvage, je dirais, qui dégageait plus d'émotions qu'aujourd'hui. Du moins, c'est mon feeling, ma perception.
Mmh. Et puis l'autostop aussi, hein, qui.
Alors il y avait ça aussi.
Qui a complètement disparu aujourd'hui et puis qui fait souvent partie de cet imaginaire aussi de la route et qui est d'ailleurs présent dans votre roman.
Oui, tout à fait.
Tout à fait. Et puis, est-ce que vous pensez que l'écrivain a un rôle? Est-ce que c'est le rôle de l'écrivain finalement d'éveiller peut-être à certaines thématiques, ou est-ce que l'écrivain n'a simplement pas de rôle?
C'est une bonne question. Je crois que c'est très individuel. Encore une fois, moi, je crois que le premier rôle d'un écrivain, c'est quand même de donner du plaisir, de faire passer un bon moment à ses lecteurs. Maintenant, d'autres penseront différemment. Hein, et je conçois tout à fait que beaucoup de lecteurs ne lisent que des romans à thème, à thèse, je veux dire, des romans engagés. Est-ce qu'un écrivain doit... Non, mais vous prenez quelqu'un comme Marc Lévy, comme Guillaume Musso, c'est clair qu'il ne délivre pas beaucoup de messages, mais finalement, là de nouveau, ils font du plaisir, ils donnent du plaisir à beaucoup de gens.
Ah, tout à fait, tout à fait.
Voilà.
Ils sont tout à fait légitimes d'ailleurs à le faire. Ouais.
Maintenant, quelqu'un qui se dédierait uniquement à écrire des romans engagés, mais pourquoi pas, mais c'est quand même mieux s'il le fait de façon, s'il délivre son message de façon lisible, de façon pas trop hermétique. Hein.
Je
pense à un Boris Vian dans ses Vernon Sullivan, c'est les petits romans qu'il avait publiés sous le pseudonyme de Vernon Sullivan. Et notamment, J'irai cracher sur vos tombes. Bon, ben, le message est extrêmement violent, il est très clair, mais le roman se lit, je dirais, presque agréablement, malgré les atrocités qui y sont décrites. Disons, le rythme, le langage, la présence. Enfin, c'est un roman qui est très facile à lire.
Oui, tout à fait. On a parlé des paysages, on a parlé du plaisir finalement qui est donné au lecteur. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un très bon roman? Comment est-ce qu'on construit un bon roman?
Alors, moi, je vois plusieurs éléments. Hein. C'est assez complexe et c'est une alchimie. D'abord, la grande question est de savoir qu'est-ce qu'un bon roman. Hein. Ma définition ne correspondra certainement pas à la vôtre.
Chacun en a une
qui est différente. Pour moi... Bon, mais d'abord, il faut une bonne intrigue avec des enjeux, des tensions. Ouais. Ensuite, il faut des personnages intéressants, de bons personnages, des personnages qui ont une originalité, qui ont une faiblesse, qui ont une faille, qui ont à la fois une grande force et une grande faiblesse. donc des personnages qui vont imprégner le lecteur. Le troisième élément qui est aussi à mon sens très important, c'est le rythme. J'aime les romans qui ont un bon rythme, qui avancent vite.
Ouais.
Un petit peu à la façon d'un film. Le quatrième élément que je donnerais, qui est peut-être aussi lié au rythme, qui est aussi lié au rythme, il s'agit de des descriptions. Les descriptions, de mon point de vue, doivent être assez rapides. Elles doivent être précises, mais rapides. Parce que finalement, à moins que vous soyez obligé d'attendre, par exemple, si vous êtes dans une salle d'attente et que vous avez rien à faire, bon, ben là, vous pouvez vous permettre de décrire toute la salle. Mais si vous rentrez dans une pièce dans laquelle vous avez une séance, vous perdez pas trop de temps à balayer la salle du regard. Vous entamez directement la conversation avec les personnes que vous rencontrez. Donc, il y a une idée de temps réel, si vous voulez, un petit peu comme dans un film. Et puis, le cinquième élément auquel je tiens pour un bon roman, c'est d'avoir des mots précis, des mots simples, à des phrases courtes. Alors là, je sais que je ferai hurler tout un tas d'esthètes.
Ah, des phrases courtes, c'est intéressant.
Oui, parce que les phrases courtes sont beaucoup plus accessibles. En fait, l'objectif de l'écriture, pour moi, c'est de faire vivre une belle histoire au lecteur. Donc, le langage écrit est une interface entre ce que l'auteur visualise lorsqu'il imagine la scène et le lecteur qui lira le livre. Et cette interface, c'est beaucoup plus efficace si vous utilisez des phrases courtes, des mots simples, qui viennent immédiatement à l'esprit, dont le sens est immédiatement perçu par le lecteur.
D'accord.
Maintenant, je conçois tout à fait que pour d'autres gens, l'écriture est une fin en soi. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est la beauté des phrases bien balancées avec des mots soigneusement choisis. Je conçois tout à fait que pour certains, l'écriture soit une fin en soi. Pour moi, elle n'est qu'un moyen, qu'une interface.
D'accord. Si je vous entends bien, vous, par exemple, vous écrivez peu ou pas de poésie, c'est bien ça?
J'en écris un tout petit peu pour m'amuser ou comme ça, disant de manière tout à fait privée. Mais sinon, non, effectivement, je n'écris pas de poésie.
Bon, remarquez, vous pouvez justement choisir de faire des romans avec des phrases relativement courtes et accessibles, et puis chercher à développer la poésie dans une autre sphère de votre imaginaire. Hein. C'est pas du tout contradictoire, évidemment, mais c'était
tout à fait. Et je dirais même plus. Même avec des phrases courtes et des mots simples, on peut rendre la poésie d'un paysage, on peut donner finalement l'impression d'y être. On peut donner un sentiment poétique avec des mots simples. Moi, j'en suis persuadé. Par contre, effectivement, on ne dira pas « Ah oui, c'est une belle langue avec des belles phrases bien balancées et des mots recherchés. » Ça, c'est juste.
D'accord. Est-ce que c'est difficile d'écrire pour vous?
Non. En fait, je pourrais répondre avec une comparaison, une métaphore. Si vous demandez à un marathonien, est-ce que c'est difficile de courir pour vous, hein, un marathonien amateur qui ferait le marathon de Lausanne, par exemple, il vous répondra probablement que non. Enfin, je n'ai jamais fait de marathon, hein, mais j'ai couru Morat-Fribourg. C'était pas difficile. À partir du moment où j'ai eu la discipline de m'entraîner, j'y ai trouvé beaucoup de plaisir. C'est un peu ça l'écriture. J'ai longtemps.
Il y a une phase comme ça d'apprentissage difficile où on sue un peu et puis après ça va mieux.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut, comment dire, à partir du moment où on a découvert ou on s'est imposé une certaine discipline, s'y tenir, c'est très facile. Et par contre, ça donne beaucoup de plaisir. Je dois dire que bon, j'ai commencé relativement tard à écrire sérieusement, hein, à l'âge de 45 ans, simplement parce que je n'avais pas compris le sens du mot discipline. C'est pour moi, c'était la discipline, c'était un mot dont j'avais entendu parler à l'armée, à l'école, mais
une contrainte négative en réalité.
Elle ne me concernait pas vraiment, je n'avais pas vraiment compris le sens.
D'accord. Mmh. Ça, c'est plus une vision de la discipline, un peu comme dans je sais pas, une philosophie orientale où la discipline est une façon de se renforcer aussi. C'est un petit peu dans cet état d'esprit.
C'est une force incroyable. À partir du moment où on s'est fixé un objectif et qu'on a décidé de s'y tenir, on a une force incroyable. Et en plus, on y trouve du plaisir. Alors non, pour moi, écrire n'est pas difficile. Par contre, encore une fois, c'est comme n'importe quelle création. Ça demande quand même un certain effort. Mais on a je crois que le mot effort et le mot plaisir ne sont pas incompatibles.
Ne sont pas antinomiques, oui. Oui, tout à fait. Après, on peut avoir beaucoup de disciplines et ça vient quand même pas. Ça peut arriver.
Alors, ça peut arriver. Ça m'est pas arrivé. Maintenant, j'imagine très bien que ça peut arriver. Comment dire, là, il y a peut-être une part de. Je crois qu'il y a des gens qui ont simplement pas envie d'écrire, qui ont pas l'imagination pour, qui ont peut-être toutes les techniques, mais ce sera pas leur truc. Alors je crois qu'il faut pas forcer. Et puis par contre, il y a des gens qui ont une imagination extraordinaire.
Oui, tout à fait.
Donc voilà. Et puis je sais pas très bien où je me situe dans tout cet éventail. Certainement que j'ai suffisamment d'imagination pour écrire un roman pour ne pas avoir le syndrome de la page blanche. Mais je dis pas que ça m'arrivera jamais. Hein.
Alors, je crois que vous avez publié tous vos romances, à l'exception du dernier aux éditions Mon Village. Là, vous avez changé d'éditeur. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de ce changement ?
Alors, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que, les éditions Mon Village offrent d'excellentes possibilités à beaucoup d'auteurs parce qu'ils prennent pas mal de nouveaux auteurs. Et ça, je trouve extrêmement... je dirais sympathique et très utile dans le paysage littéraire romain.
Oui, il y a une prise de risque qu'on peut saluer là.
Tout à fait. Cela dit, ils n'ont pas une ligne aussi claire que BSN Press, qui a clairement, il ne fait pas que ça, mais BSN Press, avec qui j'ai publié La fille qui n'aimait pas la foule, BSN Press a une ligne roman noir dans laquelle je m'inscris tout à fait. Donc c'est une question, je dirais, plus de marketing, de ligne éditoriale.
D'accord. Comment ça s'est passé précisément le processus d'édition de ce dernier roman ? Est-ce que l'éditeur a été très très impliqué dans cette phase-là ?
Alors oui. Pas extrêmement. Ce que je veux dire, c'est que j'ai d'abord écrit, j'ai montré la moitié du roman déjà à Giuseppe Meronè. Il m'a donné son avis et puis j'ai terminé le roman. Ensuite, il m'a fait quelques remarques, j'ai fait quelques reprises. Il y a effectivement une collaboration. Des conseils souvent très utiles qui sont donnés par l'éditeur, oui.
Comment il a été reçu ce roman ? Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont les gens l'ont lu et reçu ?
Oui, dans l'ensemble, j'ai eu pas mal de commentaires positifs. Bon, le grand problème en tant qu'auteur, c'est que les gens qui pensent du bien de votre roman vous le diront, et puis ceux qui en pensent du mal vous diront rien. Alors, ce qui est très précieux évidemment, c'est de recevoir des commentaires négatifs, parce que ça permet de remettre les pendules à l'heure. Maintenant, ce dont je me rends compte, c'est que les, par exemple, les lecteurs qui ont beaucoup aimé l'Attitude 58 ou La Passagère de Stingray, donc des romans historiques qui se passent en mer, ont souvent un peu moins aimé La Fille qui n'aimait pas la foule, et qui est un polar contemporain quand même. Donc,
c'est un autre genre.
Donc, de toute façon, vous n'aurez jamais 100% de réussite, ni même 90%. Hein. Il y aura toujours des gens qui trouveront que, je ne sais pas, les phrases sont trop courtes, l'action est trop rapide, les personnages sont trop caricaturaux ou d'autres choses dans ce genre. À l'inverse, on vous dira ah non, mais alors là, je trouve qu'il y a des longueurs, je me suis ennuyé. Donc, c'est pas toujours facile de trouver le juste milieu. Et de toute façon, ce juste milieu ne conviendra jamais à tout le monde.
Oh, c'est ça, absolument. Et puis, je pense qu'un écrivain qui fait tout le temps le même livre, c'est pas forcément très intéressant non plus. C'est aussi, voilà, il y a aussi une envie finalement de d'explorer peut-être d'autres genres, d'autres écritures, d'autres styles.
Oui, tout à fait. Il y a une prise de risque, mais il y a beaucoup. Je dirais que beaucoup est dicté finalement par le plaisir. Je crois qu'un auteur finalement doit effectivement tenir compte de ses lecteurs parce qu'il a envie finalement de faire plaisir, mais il doit aussi se faire plaisir. En fait, je pourrais comparer un écrivain à un cuisinier. Hein, quand vous recevez du monde chez vous,
ouais.
Si vous aimez cuisiner, ben, vous essayerez de faire un plat qui vous convienne, parce qu'à la, quand même, on va se faire plaisir, mais qui enchantera également les personnes que vous invitez. Ouais. Et ce sera un peu un compromis, parce que forcément, si vous adorez, si vous estimez que le risotto se fait avec pas mal d'ail, et que sans ça, on n'entre pas en matière, et puis que vous avez un quart de vos convives qui n'aiment pas l'ail, ben, il faudra vivre avec.
Ouais, tout à fait. Absolument. C'est important, cette notion de plaisir. Elle revient souvent dans votre discours et je crois que vous avez bien raison de la mettre tout à fait au centre. Je crois que l'écriture et la lecture, ça doit aussi être du plaisir. Peut-être pas forcément que du plaisir tout le temps, mais en tout cas, remettre cette notion de plaisir au centre, tout à fait essentiel, absolument. Quel regard vous portez sur la littérature contemporaine en Suisse romande aujourd'hui? Est-ce que vous lisez beaucoup d'abord?
Alors, ces dernières années, je dois avouer que j'ai pas énormément lu. Je travaillais à plein temps, j'écrivais à côté, donc je lisais utile, soit des ouvrages parfois documentaires ou historiques ou techniques pour me renseigner, me documenter pour mes romans, soit surtout des romans qui correspondait au genre que je voulais écrire, hein. Donc plutôt des auteurs de polar style Michael Connelly ou Fred Vargas. Donc je lisais pas énormément, peut-être un livre tous les mois, quelque chose comme ça, hein, un roman tous les mois, sans parler des ouvrages documentaires. J'arrivais pas à faire beaucoup plus. Alors maintenant je compte bien rattraper un peu le retard, mais c'est vrai que j'ai lu quand même un certain nombre d'auteurs romans avec plaisir. Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont marqué parmi ceux que vous avez lus dernièrement?
Alors écoutez, pour parler de mon nouvel éditeur de chez BSN Press, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Le cul entre deux chaises de Joséphine Cardona. Ou La brute au grand cœur de Matteo Di Gennaro.
Ah oui, très réussi celui-là, ouais, tout à fait.
Et puis, pour parler de mon ancien éditeur, Mon Village, je suis en train de terminer votre roman.
D'accord. Je vais pas vous demander là si vous l'avez trouvé bon ou pas, mais je suis content que vous le lisiez, et puis je vous souhaite bonne lecture en tout cas.
Voilà, merci.
Et puis, quels sont vos projets maintenant? Est-ce que vous écrivez en ce moment?
Alors, j'ai sorti La fille qui n'aimait pas la foule en fin août de l'année passée. Depuis, j'ai été assez pris, donc j'ai eu peu de temps. Je travaille maintenant au scénario du prochain roman.
Ouais.
Je prends plus de temps pour démarrer. Non pas que j'ai pas envie de me lancer très vite, mais je me rends compte que ces dernières années, je considérais que l'écriture était quand même un délassement. Donc je passais pas trop de temps, pas assez de temps même, à imaginer le scénario et les personnages.
Ouais.
Et je me mettais peut-être un peu trop vite dans l'écriture, qui est quand même la partie la plus, j'allais dire, la plus facile. Une fois qu'on a un bon scénario, qu'on a des personnages, eh bien, vogue la galère, on y va.
Ouais, tout à fait.
Alors, là, je prendrai un peu plus de temps, parce que, ben, justement, comme j'ai pris une retraite anticipée il y a maintenant 3 semaines, le but, c'est quand même d'approfondir. C'est-à-dire ouais. d'avoir des scénarios plus fouillés, d'avoir des personnages plus fouillés aussi. Donc, je prends plus de temps, effectivement. Mais bien sûr que j'ai un projet cette année.
Ouais, c'est tout au début là, donc de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une esquisse comme ça, très très générale, de la direction dans laquelle vous pensez aller?
Alors, effectivement, vous avez raison de dire la direction dans laquelle je pense aller, parce que je pourrais encore changer. Mais ce sera probablement de nouveau un livre de voyage qui devrait se passer dans un pays très très lointain, la Nouvelle-Zélande. Mmh. Et c'est un roman qui se jouera aussi, qui devrait se jouer sur deux niveaux temporels. Hein. Une partie actuelle et une partie en 1940. Qui provoque finalement, qui est à l'origine de l'intrigue.
D'accord. Avec une trame historique de nouveau.
Alors il y a un côté historique et un côté contemporain.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, Gilles de Montmolin, je vous remercie beaucoup pour cet entretien.
Je vous remercie.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir et beaucoup de succès dans l'écriture de ce prochain roman. À paraître, qu'est-ce qu'il faut dire, dans une année, deux peut-être?
Alors écoutez, ben, j'espère de courant 2016. Voilà.
D'accord, ben, on se réjouit de le lire d'ici là.
Merci.
Gilles de Montmolin, merci beaucoup et puis tout de bon pour vous.
À vous aussi Julien, hein, et bonne soirée. Hein.
C'était le 3e épisode de Lettres Romandes, un podcast proposé par Julien Sansonance. Merci à Gilles de Montmolin. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes ou nous retrouver sur lettresromandes au pluriel.ch.